Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.
Bienvenue à votre magazine Droits et Devoirs qui se penche aujourd'hui sur les organisations de la société civile face au processus de démocratisation et de gouvernance en RDC. Il s'agit d'analyser et d'évaluer l'apport ou la contribution des organisations non gouvernementales face au processus de démocratisation et de gouvernance dans le pays. Les associations concernant les droits de l'homme, le développement, la lutte contre la faim, l'accès à l'eau potable, la lutte contre les maladies, la protection des enfants, la scolarité, l'écologie, etc. sont en si grand nombre qu'elles couvrent tout le spectre politique, social et philosophique ainsi qu'anthropologique, y compris parfois pour la défense d'intérêts très restreints, voire parfois très peu altruistes. Depuis la fin des années 1990, le pays connaît un foisonnement de ses associations à but non lucratif, ce qui nous conduit à les classer dans au moins deux grandes catégories. Les ONG de plaidoyer comme Human Rights Watch et les ONG humanitaires comme les associations caritatives et d'aide au développement. Elles disposent de plus en plus de compétences techniques qui les rendent crédibles et leur permettent d'être consultées et écoutées lors de grandes réunions internationales. Mais considérant la multitude d'ONG, des dérives peuvent être déplorées, aussi bien dans leur gestion interne qu'en externe. Des critiques peuvent porter sur leur efficacité, leur visibilité, leur inertie face aux violations des droits de l'homme, aux violations des attributs de l'état de droit, à la malgouvernance. Que font toutes ces ONG qui foisonnent le pays? Comment évaluer leur action sur le terrain? Quelle est leur contribution au processus de démocratisation de la RDC? Quelles sont leurs faiblesses et leurs forces? C'est autour de cette problématique que Droits et Devoirs gravitent. Ne pouvant pas travailler sur toutes les associations de la société civile, nous en avons retenu les plus représentatives regroupées au sein du cadre de concertation de la société civile et une ONG suédoise, Diakonia, par laquelle le financement de l'Union européenne passe pour renforcer les capacités de la société civile. Nous recevons le professeur Fumuzanza, président du cadre de concertation de la société civile, et Madame Iéli Brigitte, représentante pays chez Diakonia. Ils nous parlent de leurs associations face à la question de la démocratie et de la gouvernance en RDC. Placide Zilamba et Dunia Joseph sont deux analystes indépendants qui évaluent le travail de la société civile. Ce magazine est coproduit avec le concours de Jean-Marc Matouaki et Gabriel Wamenya. Jeff Ngoyi le présente. Encore une fois, bienvenue à votre magazine qui s'intéresse au travail des ONG de la société civile dans le processus de démocratisation et de la gouvernance en RDC. Pour commencer, nous vous convions à suivre les critiques des deux analystes sur les activités de la société civile en RDC. Placide Zilamba et Dunia Joseph parlent au micro de Gabriel Wamenya depuis Goma.
Tout d'abord, il faut reconnaître ce travail de Titan Kaba, les organisations de la société civile, tant nationale qu'internationale, dans le processus de démocratisation et même de la bonne gouvernance, d'autant plus que les preuves sont palpables. Aujourd'hui, tout ce que les organisations ont fait est déjà là, à préparer la population. Elles travaillent avec l'État, elles travaillent avec les partenaires internationaux. Moi, je crois que c'est un travail louable, appréciable aux yeux de tous.
Alors, quels sont les signes matériels de leur visibilité sur le terrain?
Les signes matériels de leur visibilité sont palpables. Les organisations publient chaque jour des rapports, des monitoring, des activités, de la bonne gouvernance dans le cadre du processus électoral. Les organisations travaillent avec la CENI dans le cadre de préparation du fichier électoral. Je vous dis, arrivé même au niveau de la justice, vous trouverez des traces qui vont vous montrer qu'il y a l'appui des organisations qui est passé par là. La police a été préparée sur les droits de l'homme à période électorale. La population a été préparée sur les droits de l'homme à période électorale. Tout ça, c'est le travail des organisations en commun accord avec l'État pour essayer de préparer toutes les couches sociales au processus électoral. Dans le cadre de la démocratisation, et la preuve patente est que ce sont les membres des organisations de la société civile qui sont chaque jour aux arrêts, chaque jour malmenés parce qu'ils veulent que cette démocratie, que l'AI par la sueur, ne soit pas torpillée par des intérêts politiques.
Et par rapport maintenant à la bonne gouvernance?
On ne dira pas assez pour les organisations nationales et internationales qui ont fourni assez d'efforts. Vous trouverez des bâtiments pour la police, vous trouverez même des véhicules pour différentes structures, pour pour la justice, pour l'armée, des membres de la communauté internationale qui se sont donnés pour former ou appuyer ce qu'on appelle la réforme du secteur de sécurité. Tout est visible. Et moi, je me dis, si n'eût été les organisations, le Congo serait par terre.
Les résultats que nous relevons du travail des organisations nationales et internationales face au processus de démocratisation et de bonne gouvernance en RDC est très mitigé du fait que les résultats demeurent moindres, très maigres lorsque vous considérez la date du 24 avril 1990. Jusqu'à ce jour, c'est une marche très lente. La situation des droits humains ne s'est pas beaucoup améliorée. La bonne gouvernance ne s'est pas beaucoup améliorée. Lorsque vous voyez aujourd'hui l'accès à la paix, ce sont des préoccupations majeures malgré le lancement du processus de démocratisation depuis 1990.
Pouvez illustrer vos propos par des exemples concrets?
Oui, lorsque nous parlons du processus de démocratisation lui-même, donc les élections, comment ça devait se faire, vous avez vu la transition Mobutu qui a pris 7 ans jusqu'en 97, jusqu'à ce qu'il soit chassé, son gouvernement chassé, le parlement chassé. C'était l'échec. Après, il est arrivé le pouvoir de Moïse Laurent Kabila. Et là, avec la suppression de la société civile, la suppression des partis politiques, c'était un recul, c'était une chute du point de vue des démocratisations et des bonnes gouvernances. Maintenant arrive le mandat de Kabila Joseph. Là, les espoirs étaient permis d'avoir un jeune président. Et bien sûr qu'on peut voir une petite marge de la liberté d'expression, mais ce n'est pas tout ce qu'on attend. On attend plus que ça.
Sur le terrain, quels sont les signes matériels de leur visibilité concrètement?
Oui, j'ai relevé l'aspect positif de la lente marche de la liberté d'expression, ce qui démontre quand même, par rapport aux autres États, lorsque vous voyez autour de la RDC, on peut croire quand même que sur cet aspect-là, il y a un petit effort. Lorsqu'on voit la campagne menée par l'organisation de la société civile sur la liberté d'association, même si c'est difficile aujourd'hui, les marches, les rassemblements ne sont pas autorisés lorsqu'il y a des partis politiques, surtout de l'opposition, des rassemblements, qui ne sont pas autorisés à se réunir. Et pourtant, cela est garanti par la Constitution. Donc, on trouve que cela, c'est un échec.
Et par rapport à la bonne gouvernance?
Par rapport à la bonne gouvernance, vous voyez aujourd'hui des députés sans mandat, des dirigeants qui gèrent par défi. Et je crois que ça, c'est un échec qui démontre que la société civile, l'organisation nationale et internationale doivent encore sensibiliser davantage, permettre à ce que la population puisse s'approprier. Vous avez vu, lorsqu'on fait des appels aux manifestations, de plus en plus, il n'y a pas un engouement très massif. Et donc, tout cela, ça vous démontre que aucun pays ne peut fonctionner sur une base de démocratie s'il n'y a pas élection et sur base de mandat.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Okapi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine Droits et Devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15.
À présent, suivons le professeur Fumunzanza, président du cadre de concertation de la société civile, et il nous présente les objectifs du cadre de concertation.
Notre cadre de concertation de la société civile, c'est un espace d'échange et de dialogue des membres ou des organisations de la société civile. Nous sommes là pour faire entendre la voix de la société civile, et c'est pourquoi nous participons à tout ce qui est politique nationale de notre pays, puisque la société civile doit faire entendre sa voix. Et nous disons au niveau du cadre de concertation nationale parce que nous nous organisons de sorte que la société civile, nous puissions parler de la même voix. Nous sommes pluriels. Aujourd'hui, je ne peux pas prétendre que nous sommes tous au sein du cadre de concertation, mais c'est ça l'objectif que nous recherchons pour que tous nous puissions nous trouver au sein du cadre de concertation nationale de la société civile, c'est-à-dire les raisons, tous ces regroupements qui doivent être au sein du cadre de concertation nationale de la société civile. qui est notre espace d'échange et de dialogue. Parce que c'est à cela qu'on veut que tous ces réseaux se retrouvent au sein du cadre de concertation pour que nous puissions parler le même langage. Vous savez qu'avant Sansit, ça n'existait pas. Lorsqu'il y avait des enjeux politiques, on essayait d'inviter les membres de la société civile pour essayer de voir ce qu'il faut faire. Mais après Sansit, on a demandé, on a vu qu'il faut nous organiser, qu'on puisse être vraiment structuré pour qu'on puisse chaque fois ensemble de bonne façon discuter de tous les problèmes qui nous concernent sur le plan politique ou économique et qu'on puisse vraiment entendre la voix de la société civile par rapport. C'est cette participation de la société civile qui fait que chaque fois nous voyons l'intérêt de la population. Nous sommes là parce que c'est la population qui paye. Plus il faut la protéger, il faut la défendre et puis il faut qu'elle monte de niveau. Et c'est à cela que la société civile est là comme un peu garde-fou de la population congolaise.
La démocratie et les élections en RDC selon le président du cadre de concertation de la société civile, Fumuzanza.
Le processus de démocratisation et la gouvernance, vous savez, c'est casse-tête maintenant pour notre pays. On dirait que tous les Congolais, nous sommes devenus malades aussi mentalement. On ne réfléchit plus correctement ou bien quoi. Parce que si vous posez la question, vous regardez le pays, vous dites pays extrêmement riche. Mais vous voyez maintenant la vie du citoyen congolais médiocre. Un pays extrêmement riche avec une population extrêmement pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment, ça, au niveau politique, économique, il y a des choses qui ne suivent pas des principes qu'il faut pour un développement. Donc, il y a beaucoup des antivaleurs et on ne sait pas avancer.
Et en conclusion, qu'est-ce qu'il faut? Ou qu'on sorte du bourbier?
Nous devons nous-mêmes prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous voulons et nous devons être. Je pense que la République démocratique du Congo serait enviée. Beaucoup déjà chercheraient à venir passer leur vie ici au Congo parce que nous avons tout. Mais il y a manque, je peux dire, de volonté politique. Il y a trop d'antivaleurs. Les valeurs citoyennes sont rejetées. La démocratie, quand vous ne respectez pas les valeurs démocratiques, vous ne pouvez pas arriver à un développement. Vous ne pouvez pas arriver à la paix durable. Donc nous-mêmes, nous devons nous regarder. C'est notre pays. Nous avons toutes les possibilités. Pourquoi ne pas nous mettre et de sorte que chaque Congolais puisse bénéficier de ses avantages de son pays.
Nous sommes toujours ensemble sur la fréquence de la paix. Nous parlons de la société civile face au processus de démocratisation et de gouvernance en RDC. Cette fois-ci, le président du cadre de concertation de la société civile évoque les visées de son organisation qu'il considère apolitique ainsi que ses réalisations et le problème de son financement.
Nous sommes au milieu du village. Nous visons particulièrement l'amélioration des conditions de vie de la population. Et nous disons nous sommes au milieu, pourquoi? Parce que nous savons que dans notre pays, il y a la majorité et il y a l'opposition. Lorsqu'il y a une partie qui réalise quelque chose en faveur d'amélioration des conditions de vie de la société civile, nous sommes avec elle et nous assistons et nous contribuons. Notre mission, c'est vraiment de faire entendre nos voix pour chercher l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise.
Bon, vous dites que vous avez comme visé l'amélioration des conditions de vie des populations, mais on réalise que les conditions de vie des populations ne sont que précaires, mais nous avons plusieurs organisations de la société civile dans ce pays. On ne vous sent pas sur le terrain. Quelle est la valeur ajoutée à tout ce que vous faites?
Oui, dire que vous ne sentez pas sur le terrain, évidemment, c'est peut-être ne pas suivre tout ce que fait la société civile. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a une réunion, une rencontre, parce que je peux parler du niveau politique et aussi au niveau économique. Au niveau politique, il y a toujours la participation de la société civile. Bien que souvent, à la prise des décisions, la société civile n'est pas là. Mais nous discutons toutes ces politiques depuis le départ pour que on puisse tenir compte de la vie et de l'existence de notre population. Donc, réellement, nous sommes toujours présents. Souvent, ça ne se fait pas sentir, mais je vous dis qu'il n'y a pas une politique sectorielle du gouvernement qui a été réalisée sans la contribution de la société civile. À cela, je peux bien vous dire par exemple, il y a 15 groupes thématiques qui sont reconnus par le gouvernement et de chaque groupe, il y a un leader de la société civile avec d'autres membres qui participent aux discussions.
Oui, vous dites que vous voyez l'intérêt de la population. Comment défendez-vous cette population en cette période où tout coûte cher, il y a beaucoup de grognes sociales?
Je venais de vous parler qu'il y a des groupes thématiques. Oui. Dans chaque groupe, nous avons des groupes, par exemple, gouvernance économique et gouvernance politique. Exactement, et nous avons là-bas des team leaders et des membres de la société civile civile qui prennent part aux discussions et qui font entendre la voix de la société civile en faveur de la population congolaise. Parce qu'on ne peut pas le faire en dehors des politiques sectorielles du gouvernement. Et c'est pour cela que nous sommes dans chaque groupe thématique pour qu'on puisse passer nos préoccupations. Nos préoccupations, nous ne voyons que le bien-être de la population.
En rapport avec le groupe thématique gouvernance économique, vous privilégiez le bien-être de la population, donc l'intérêt général. Ça se limite à des simples slogans, à des simples discours?
Non, ça ne se limite pas à des simples discours. Je pense que la gouvernance économique, si je ne me trompe pas, c'est le Bishop Jamba. Et vous suivez même au niveau du Parlement. Il est là, il discute les budgets qui sont là présentés. La société civile est là, elle donne son point de vue, elle cherche des améliorations. Évidemment, elle intéresse les députés à entendre la voix de la société civile pour qu'ils améliorent les côtés sociaux de la population. Puisque la société civile n'a aucun pouvoir pour les faire directement, il ne peut être que revendiquer.
Revendiquer par des pressions, moyens de pression.
Pour qu'on puisse
faire des plaidoyers.
Des plaidoyers, particulièrement des plaidoyers.
Est-ce que vous avez fait au moins un plaidoyer pour la tenue des élections dans ces pays? Les élections sont-ils des caractéristiques de la démocratie? Et nous sommes dans un processus de démocratisation depuis 1990. On a connu des élections en 2006 et en 2011. Nous nous attendons aux troisièmes élections. Vous êtes apolitique, bien sûr, mais vous avez de la voix à donner. Qu'est-ce que vous faites lorsque les élections ne sont pas tenues?
Je peux vous dire, vous assurer que réellement, même si pour les élections, c'est la société civile qui travaille plus que même les partis politiques. Parce que, à ce qui concerne l'éducation civique électorale, c'est la société civile qui mène cette éducation. Même les partis politiques, peut-être à peine qu'ils commencent avant. Les élections que vous avez citées au début, 2006, vous avez dit tout ça, c'est la société civile qui préparait la population avec les confessions religieuses, parce que les confessions religieuses font partie de la société civile, sur l'éducation civique électorale. Et on a toujours parlé sur toute l'étendue de la République. On s'est retrouvé. On a aidé de ce côté-là pour l'éducation civique électorale des confessions religieuses. Et il y a des structures jusqu'à l'intérieur du pays, jusqu'à la base, on peut atteindre facilement les populations et les préparer pour les élections, puisque la population doit connaître ses droits et devoirs. Quelqu'un doit aller aux élections. S'il ignore ses droits et ses devoirs, alors on voit lui dire, lui faire marcher n'importe comment. Et il faut savoir que surtout que nous avons une population en grande partie amorphe. Il ne faut pas voir seulement Kinshasa. Si vous allez à l'intérieur, c'est la société civile qui fait les nécessaires pour préparer la population pour aller vraiment avec honneur voter selon la dignité et la volonté de l'individu.
Parmi ses droits et devoirs, vous lui apprenez comment il faut se comporter durant le processus électoral, durant la campagne électorale face aux candidats.
Oui, là nous combinons tout d'abord ce que la loi dispose, ce que la CENI met comme soubassement pour la campagne concernant l'éducation civique électorale. Et nous avons des affiches, quand nous faisons cette campagne, nous avons des affiches pour montrer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent aller voter, et ainsi de suite.
Est-ce qu'il y a au moins un feedback?
Oui, il y a un feedback. Tout d'abord, quand nous disons que nous faisons le contact avec la population, c'est déjà, on échange, on dialogue directement avec la société, à la population, et nous la préparons pour aller aux élections. Et évidemment, il y a des problèmes qui se posent. Parfois, on est dans l'impossibilité de le faire, parce que ça demande aussi des moyens pour que nous fassions ces campagnes civiques, électorales, des préparations de la population. Ça demande des moyens. Et la première année que vous avez citée, par exemple, avec les confessions religieuses, on avait suffisamment de moyens, et on était arrivé à atteindre, pour les premières élections qu'on avait faites, je crois, 2006, toute la République démocratique du Congo. Et les élections qui venaient après, on n'avait pas financé la société civile pour la préparation de la population aux élections.
Qui doit vous financer?
Nous demandons, il y a des bailleurs, des partenaires techniques et financiers. Il y a aussi le gouvernement, puisque c'est sa population, c'est pour son intérêt. Si les gens doivent aller voter des partis politiques, ce sont des Congolais, ce sont les partis de notre pays. Alors, le gouvernement doit tenir compte qu'il faut préparer la population. Voilà, si la population n'est pas préparée, c'est pour cela parfois on arrive à des chocs. Pourquoi? Il y a la liberté de chaque individu et la liberté de chaque parti. Quand vous allez maintenant aux élections, qu'il y a des chocs entre partis politiques, ça, c'est manque de préparation par rapport à la démocratie et aux élections. C'est l'ignorance. Alors la société civile fait tout le nécessaire pour préparer la population à ça.
Il y a une organisation des jeunes qui a demandé au gouvernement d'investiguer sur le financement des organisations de la société civile. Qu'est-ce que cela vous fait dire?
Nous, dernièrement, d'ailleurs, nous avions une réunion que tous ces jeunes doivent être avec nous au sein de la société civile. Parce que nous avons des groupes de jeunes et nous avons, ils doivent être avec nous pour voir ce que nos préoccupations, comment nous avançons. Si on demande, c'est vrai, réellement pour faire une bonne campagne de sensibilisation et de préparation de la population face aux élections. Et rien d'autre.
Est-ce que ça ne vous gênerait pas qu'on puisse voir des prêts dans votre caisse, savoir d'où vous vient le financement?
Oui, je vous dis merci d'ailleurs de cette question. Je vous dis que réellement, le cadre de concertation nationale de la société civile, nous sommes là depuis 2013. On est parti du symposium d'Enganda en 2009 et puis le symposium d'Enganda avait dit qu'au lieu que la société civile aille d'une façon dispersée parce que, voyant notre pluralité, nous sommes pluriels, il faut chercher qu'on aille ensemble. C'est ainsi qu'en 2013, on a mis en place le cadre de concertation. C'était les recommandations qu'on avait au symposium de Centre Enganda. De 2013 jusqu'avant l'appui de l'Union européenne, on n'avait aucun financement. Ce sont les mains dans nos poches pour essayer de faire ce qu'on essayait de faire. Et heureusement qu'en 2016, il y a un appui de l'Union européenne, tout d'abord pour le renforcement des capacités institutionnelles, pour que nous puissions nous organiser vraiment, être une structure bien organisée et pour qu'on puisse faire des choses ensemble.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.
Nous rappelons que nous recevons le professeur Fumo Nzanza, président du cadre de concertation de la société civile congolaise, et nous parlons de l'apport de cette société civile dans le processus de démocratisation et la gouvernance en RDC. Que pouvons-nous retenir de l'apport de la société civile congolaise dans le processus de démocratisation et pour la bonne gouvernance en RDC?
Oui, la société civile s'efforce, se défend à ce qu'on puisse vraiment respecter ce que nous appelons nous-mêmes même la démocratie et ses principes, l'administration et tout ça, la justice. Donc, ce que nous faisons, nous recherchons qu'on rejette, qu'on efface devant nous des antivaleurs, que chaque Congolais puisse se prendre avec conscience, c'est-à-dire qu'il est citoyen congolais. On appelle tout le monde citoyen congolais, mais tout le monde n'est pas citoyen. Le citoyen, c'est celui qui sait respecter ses droits et devoirs. Nous avons des droits et des devoirs, mais il faut aussi respecter ce que vous devez rendre. Donc, nous tous, si nous avons notre mentalité, puisque aujourd'hui, il y a un problème, c'est devenu un cercle vicié. Il y a la pauvreté, il y a le chômage, il y a tout ce qu'on appelle des antivaleurs là-bas, la corruption et tout ça. Donc il faudra que nous, à un moment, qu'on casse ça, qu'on se voit que ça, ce sont des antivaleurs. Il ne faut pas perdurer, rester dans les antivaleurs. Ah, ça, c'est l'injustice. Il faut avancer avec la justice. Ainsi, que la jeunesse soit encadrée, formée, éduquée.
Après le professeur Fumuzanza, nous recevons maintenant Brigitte Iyeli, représentante pays de Diakonia, qui accompagne le travail du cadre de concertation de la société civile. Elle parle des actions menées par cette ONG et des résultats escomptés.
La société civile mène ou a mené beaucoup d'actions dans le domaine de la démocratie, dans le domaine de la gouvernance. On peut citer,
par exemple,
si on peut remonter l'histoire. Pour la tenue de la conférence nationale souveraine, on a vu l'Église catholique était là. Il n'y a pas longtemps, on a vu encore l'Église catholique dans le dialogue national qu'il y a eu dernièrement en 2016. Et il n'y a pas seulement l'Église catholique, il y a toute la fédération des églises qui interviennent d'une manière ou d'une autre pour amener le pays ou pour renforcer ce processus de démocratisation en RDC.
À la conférence nationale souveraine, on avait une société civile très active, mais aujourd'hui, il semble qu'elle est devenue amorphe.
Moi, je ne dirais pas que la société civile est devenue amorphe. Mais le problème, c'est un peu comme le professeur vient de le dire. La société civile, en ces temps-là, c'était 1992, c'était une société civile naissante avec plein d'énergie et beaucoup de synergie, et ça constituait un bloc. Mais maintenant, au fil du temps, il y a eu aussi beaucoup d'interventions, il y a eu beaucoup d'ONG naissantes, il y a eu beaucoup de syndicats qui ont vu le jour, il y a eu aussi beaucoup d'églises qui ont vu le jour, mais toutes ces composantes de la société civile ont des intérêts particuliers qui divisent la société civile.
À tel point que vous n'êtes plus l'église au milieu du village, comme l'a prétendu le professeur Fumuzanza.
S'il y a des composantes qui ont pris une option ou une autre, ça ne signifie pas qu'on ne doit pas débarquer ou on ne doit pas emballer
tout au sein de la société civile.
Ça arrive. Ça, c'est la dynamique de la vie. Il y a des acteurs de la société civile qui sont débauchés, mais ce que nous voulons, c'est que ces acteurs-là travaillent pour les intérêts de la communauté.
Oui, professeur Fomouzanz, vous avez quelque chose.
Vous savez, la société civile, vous dites amorphe, bon, la façon dont vous remarquez les choses. Oui. Mais je vous dis tout de suite que, comme l'a dit madame, nous, la société civile, nous avons deux grands ennemis, la pauvreté et le chômage. Et voilà, c'est ça, ces éléments-là que les autres exploitent lorsqu'il y a, par exemple, des enjeux politiques pour attirer certains membres de la société civile.
On vous amène de l'argent et puis
malheureusement,
de côté l'intérêt général.
Voilà, qui se laisse faire et tombe dans les antivalets. Ce sont ces deux les risques que nous avons majeurement, c'est ça, la pauvreté et le chômage.
Le chômage. Madame.
La société civile, elle mène des actions. C'est vrai qu'il y a des faiblesses que nous devons corriger. Et quand nous parlons par exemple de la gouvernance au niveau politique, mais il y a aussi des problèmes de gouvernance au sein des organisations de la société civile. Et c'est là où nous mettons aussi nos efforts pour amener la société civile à améliorer la gouvernance interne afin d'aboutir aussi au bon résultat. Nous ne voulons pas, quand on parle des détournements au niveau politique, qu'on parle encore des détournements au niveau des organisations de la société civile.
Quels sont les résultats en matière de justice distributive?
En matière de justice distributive, il y a plusieurs résultats que je peux partager avec vous. Par exemple, l'an passé, dans le territoire de Luka, là, si je ne me trompe pas, il y a eu conflit entre la cimenterie, je crois la cimenterie de Luka, là, qui avait pris un espace de terre de la population. Il y avait conflit parce que la population ne savait plus où loger. Mais notre partenaire Krank est intervenu et il a mené des actions, des plaidoyers au niveau de chaque province. On a un conseil régional des organisations, des ONG de développement. Donc Krank travaille toujours en collaboration avec le gouvernement provincial.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Nous en parlons dans votre magazine Droits et devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15.
Nous poursuivons le magazine avec Madame Ieli de Diakonia autour de la question de la société civile face au processus de démocratisation et de gouvernance en RDC. Quelles sont les perspectives de cette ONG avant de conclure?
Les perspectives de l'avenir, pour moi, je rêve d'une société civile unie, forte et qui accompagne les actions du gouvernement vers l'amélioration des conditions de vie de la population.
On espère qu'on y arrivera pour que les conditions de vie des populations s'améliorent. Nous avons compris que la société civile congolaise a du pain sur la planche et s'y emploie quand même par des plaidoyers qu'elle fait et s'érige en groupe de pression sur les décideurs qui prennent des décisions sur le quotidien des populations. Et nous retenons que Diakonia, les organisations internationales, vous appuient en renforçant vos capacités et ils espèrent que la société civile se mettra au diapason et sera à même d'amener des actions pour le bien-être de tous, pour la démocratie et la bonne gouvernance, en commençant par le cadre même des concertations pour mettre fin aux détournements, aux dénonciations de la mauvaise gestion au sein même du cadre des concertations avant d'en arriver aux politiques. Voilà, nous rappelons que nous recevions le professeur Fumuzanza, président du cadre de concertation de la société civile congolaise, et madame Brigitte Ieli, représentante pays de Diakonia, une ONG suédoise, avec qui nous parlions de la société civile face au processus de démocratisation et à la gouvernance en RDC.
Je reviens à la mission de Diakonia qui consistait, entre autres, à renforcer les capacités de la société civile pour les amener à atteindre leur mission qui consiste aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations.
C'est par ces mots de la représentante pays de Diakonia que nous mettons un terme à ce magazine qui s'est penché sur la société civile face au processus de démocratisation et de gouvernance en RDC. Cette émission a été coproduite avec le concours de Jean-Marc Matouaki et Gabriel Wamenya. Agréable condition d'écoute de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.